Sud Radio 10h midi, débat.
Les débats avec vous en ce lundi 8 novembre, avec aujourd'hui Jeannie Leroy. Bonjour, vous êtes chroniqueur chez Boulevard Voltaire.
Exactement.
Comme on dit chez,
oui.
On dit chat à Boulevard Voltaire, c'est pas joli. Michel Taube, fondateur du site d'information Opinion Internationale. Bonjour,
bonjour
Michel. Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement Éthique.
Bonjour.
Bonjour. Et j'allais reciter Jeannie
Leroy,
je suis tellement contente de le recevoir. Et François Monboise, pardon, bonjour François, qui est avec
Bonjour.
Nous, président de la FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. Sondage IFOP, c'est un sondage fiducial. Éric Zemmour dépasse Marine Le Pen. On va parler de ce qui se passe un petit peu partout en France. Le commissariat d'Argenteuil attaqué au mortier cette nuit. À Cannes, un policier, alors ce n'est pas à mettre sur le même plan, hein. C'est un policier qui a été attaqué à l'arme blanche ce matin au cri de Allahu Akbar. Le ministre de l'Intérieur d'ailleurs est descendu à Cannes. Et puis les Dalton qui continuent à faire des siennes, qui ont escaladé un mur de prison. On repose la même question qu'on vous a posée la semaine dernière, hein. Où est l'autorité de l'État? Et puis on reviendra sur cette proposition d'Arnaud Montebourg, bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs citoyens. On parle de tous ces sujets avec vous et de bien d'autres encore. Commençons peut-être avec vous, Sophie, c'est léger pour commencer.
Ah oui, c'est léger, ça fait du bien et c'est une bonne nouvelle et je ne suis pas étonnée que les médias n'aient absolument pratiquement pas traité. On a une course qui est partie hier du Havre, une transat, la Jacques Fabre, qui est la course à la voile la plus difficile du monde, paraît-il. C'est 3 semaines, ils sont 2 sur un bateau, il y a des tas de tailles de voiliers. 80 bateaux qui sont d'ailleurs soutenus par des entreprises, c'est quand même assez sympathique. Sauf un bateau.
J'attendais l'entreprise.
Sauf un bateau.
Enfin, c'est pas la seule course où des entreprises soutiennent.
Un seul bateau, le VC Itan, qui n'est pas soutenu, qui est Olivier Delrieux, qui est qui concourt avec un skipper. C'est la course la plus dure du monde en duo. Elle arrive à la Martinique. C'est une aventure humaine extraordinaire. Et je trouve que c'est formidable parce qu'il y a des villages entiers, les gens arrivent au Havre, c'est une aventure humaine, c'est une force de caractère incroyable. Et là, c'est complètement passé sous silence.
On attend Thomas Pesquet, on ne peut pas tout faire.
On ne peut pas tout faire, oui. Non mais là, on va parler de l'arme blanche.
Non mais beaucoup de médias ont parlé quand même de la transat Jacques Vabre.
On n'a rien vu, t'as vu des images
Peut-être moins que les autres années, mais quand même, la voile, c'est un sport très populaire en France.
François,
il y a souvent des...
La voile, c'est vrai, mais celle-là,
François, vous partagez l'avis de ce que dit Sophie?
Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, effectivement, mais je n'anticipe pas parce qu'on a moins des stars que Tabarly, Cola, pour lesquels il y avait un gros poids médiatique. Là, on a des gens très bons, mais qui sont connus, mais uniquement par les initiés. Et juste un petit point, ce n'est pas la course la plus dure du monde, parce que c'est à deux. La course la plus dure, c'est en solitaire.
C'est en solitaire, c'est ça le plus difficile.
Ah oui,
c'est
en solitaire.
Professionnels,
c'est la plus dure à deux, alors.
Voilà.
C'est la plus dure à deux.
Bon, mais tous ceux qui étaient au Havre hier pensaient que c'était la plus dure du monde. C'était très émouvant.
Alors, Edouard Philippe, il était présent pas,
Absolument, il est arrivé discrètement. Il a fait la queue comme tout le monde pour donner son QR code. Je ne pense pas, mais on va vérifier.
D'accord. C'est la première fois que la course arrive à la Martinique.
Oui,
parce que d'habitude,
oui.
Elle arrive en Amérique latine.
Bravo.
Alors, Michel, c'est un coup de cœur, coup de projecteur?
Ouais, c'est un coup de projecteur. L'émission de Karine Le Marchand hier soir sur M6, qui recevait plusieurs candidates à l'élection présidentielle. Je trouve que dans le voyeurisme consenti et bienveillant, je trouve que c'était une bonne émission. Je crois qu'il y a eu peu de Français qui l'ont vu, 2 millions de
téléspectateurs. 2 millions et 10%, mais c'est vrai que le dimanche soir, c'est un soir particulièrement difficile. Il y a gros films.
J'aime bien l'exercice que fait Karine Le Marchand. Je trouve qu'elle humanise les personnes qu'elle a en face d'elle. Mais j'ai trouvé la plus conviviale, la plus sympa, c'était Marine Le Pen. Parce que franchement, c'est incroyable. Elle vit en colocation avec une amie d'enfance qu'elle a accepté d'héberger parce qu'elle avait eu, je crois, des grands problèmes de santé personnelle. Et franchement, je trouve ça très sympa.
Elle vit pas dans un squat.
Et elle vit en colocation de nana, en vivent en colocation et une d'entre elles s'appelle Marine Le Pen. Et je trouve qu'à côté Valérie Pécresse et Hidalgo, ça faisait bonne bourgeoise, bien sympa.
Rachida mais qui, était géniale.
Voilà. Mais là, je parle des candidates avec son présidentiel.
Ouais. Ah, oui,
je compare les trois. Voilà. Donc, j'ai trouvé ça très sympa.
Et
bienveillant et très sympa.
Vous n'avez voilà. pas trouvé que Valérie Pécresse était sympa? On avait l'impression.
Oui, mais elle est... qui, Valérie Pécresse, elle est candidate.
Non, mais elle est candidate à la candidature,
certes. Mais
elle est surtout tombée dans la gueule du loup hein, en revenant chez LR.
Ça, c'est une question. Oui, ça, c'est un autre débat. Vous avez regardé François?
Non, j'ai regardé Brando sur
Ah, d'accord. Alors, écoutez, vous allez me dire si vous êtes d'accord. Karine Le Marchand était invitée dans l'émission de France 5, c'est à vous. Et elle s'est un petit peu énervée face à Anne-Elisabeth Lemoine.
Vous rendez sympathique Marine Le Pen. Vous contribuez.
Mais pourquoi vous posez la question pour Marine Le Pen et pas pour Valérie Pécresse
elle
et pas pour
Anne
Hidalgo et pas pour.
Non, mais pourquoi toujours les mêmes?
Pourquoi les journalistes vous me demandez est-ce que vous n'avez pas peur d'humaniser Marine Le Pen? Pourquoi vous me demandez pas est-ce que vous n'avez pas peur
de les rendre sympathiques
Anne Hidalgo? Est-ce que vous pensez,
vous les rendez exemple, toutes sympathiques?
Il va falloir peut-être ça, à se dire que les journalistes aussi sont peut-être responsables aussi de cette défiance qu'on a vis-à-vis des politiques, à trop vouloir tout le temps les caricaturer. Entre elle, elle est hystérique, elle, c'est un monstre froid, elle décide de tout. Mais en fait, on ne s'en sort pas. C'est-à-dire à tout le temps s'opposer aux politiques et à toujours vouloir les déshumaniser, les gens ne votent plus aussi.
Moi je suis d'accord avec Karine Le Marchand. Et encore une fois, je trouve que les postures de vie ou les profils de vie pardon, de ces femmes, encore une fois, entre Anne Hidalgo, Valérie Pécresse, qui sont très classiques, quoi, bourgeoises classiques, Marine Le Pen, elle a un côté un petit peu rock'n'roll, qui est, voilà, c'est une réalité. Moi, je ne voterai jamais Marine Le Pen, mais ça ne m'empêche pas de dire que Marine Le Pen, c'est une femme qui a l'air très sympa.
Vous êtes gonflé de dire ce que vous
êtes. Et très
fréquentable. Est-ce que vous ne craignez pas d'humaniser Marine Le Pen, comme si c'était une bête
sauvage? Oui, mais c'est exactement la question qu'on vous pose. Nous recevons à Éthique, Mouvement Patronal, on reçoit tous les candidats, déclarés ou pas, et je reçois Éric Zemmour, parce qu'il y a un phénomène de société intéressant, et je veux savoir ce qu'il pense, c'est uniquement sur l'angle entreprise, et je suis sidérée d'avoir des réactions,
pas parler d'identité.
Vous avez l'humanisé, vous allez lui donner, il faut... C'est extraordinaire parce qu'on doit, on demande aux journalistes ou aux gens qui sont neutres, de ne pas recevoir certains alors que le fait de ne pas les recevoir est une opinion politique, déjà. Et je suis désolée, Karine Le Marchand a raison. Marine Le Pen aime les chats, est plutôt sympathique. Et ben voilà.
Allez, on marque une pause et on se retrouve. François, vous direz un mot, on marque une pause. C'est le journal, on est un petit peu en retard. Il est bientôt 11h. Mais on y revient dans un instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Avec vous sur Sud Radio, avec Michel Taub, fondateur du site d'information Opinion Internationale, fondateur d'Ensemble contre la peine de mort, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Janie Leroy, chroniqueur à Boulevard Voltaire, et François Monboise, président de la FEVA, de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance. On va revenir sur le sondage, dernier sondage IFOP, avec Éric Zemmour qui dépasse Marine Le Pen, avec un Emmanuel Macron qui est tout de même largement au-dessus. Arnaud Montebourg qui propose de bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne veulent pas rapatrier leurs ressortissants, que la France veut expulser bien évidemment. Et puis Cannes, attentat ce matin, visiblement on n'a pas encore de détails, mais ça semble être un attentat contre un policier, une agression au couteau. Et puis on reparlera des Dalton, du commissariat d'Argenteuil attaqué au mortier hier, de tous ces sujets avec vous. On évoquait l'émission de Karine Le Marchand, l'humanisation entre guillemets des femmes politiques et de Marine Le Pen en particulier. François Monboise, vous vouliez réagir?
Pas sur l'émission, parce que comme je vous le dis, je ne l'ai pas vu, mais sur la réaction du service public face à, que ce soit Zemmour ou Le Pen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a un mois, il y a eu une gaffe sur France Info d'un journaliste qui a dit « Mais non, de toute façon, Zemmour, nous, on n'a pas le droit de l'inviter. » Et donc, c'est un peu l'attitude du service public de considérer que Zemmour, Le Pen, on ne les invite pas, ce sont des personnages différents. Avec cette ambiguïté toujours, est-ce que le RN est un parti républicain ou pas? Et on tourne autour du pot depuis des années là-dessus. Et c'est un peu dommage, je trouve, que le service public ait cet ostracisme.
Oui, ouais, parce que la question, est-ce que vous ne rendez pas Marine Le Pen sympathique ? Effectivement, elle a eu raison, Karine Le Marchand, de réagir comme ça.
Elle a parfaitement raison.
Jeannie, c'est un coup de cœur ou un coup de gueule ?
Mais
je ne sais pas de quoi vous allez parler.
Pour Anne Hidalgo ?
Non.
C'est la seule qui...
Je vous connais un peu, Jeannie, je sais que vous êtes taquin. Donc,
C'est quand même la seule personnalité, ou une des rares personnalités qui s'est rendue à la COP26 en train.
Oui, c'est vrai.
Attention,
c'est vrai.
Admiration.
C'est vrai, admiration contre... C'est bon, bon, oui.
Et d'un autre côté, il faut qu'elle se rattrape un peu.
300 jets, c'est une honte.
400 jets,
c'est une honte.
Parce qu'il s'arrange pour faire la COP26 à un endroit où il est impossible d'aller au promenant qu'en avion.
Je veux dire, ils nous embêtent avec le télétravail. On n'avait pas le droit d'avoir un seul salarié de nos boîtes. Ils n'ont qu'à faire la COP en télétravail.
Et comment elle est allée à Brive ce week-end?
Ah, je ne sais pas.
Et alors, comment elle est revenue
en avion?
En TER, non, mais elle essaye de...
Oui,
de
vous ne pensez pas que c'est aussi de la com'? Alors c'est bien, c'est vertueux, bien sûr.
Elle fera ses meetings à la bougie, etc.
Oui, voilà. François, vous qui êtes...
Non, Brive, c'est en train, c'est le train des libraires qui part de Paris.
Je ne suis pas sûre qu'elle soit partie avec eux, mais peut-être. Vous vouliez parler, vous aussi, des écolos, c'est...
Oui, parce qu'il y a eu une manifestation ce week-end contre des retenues d'eau dans les Deux-Sèvres. Parce que depuis que l'agriculture existe, les agriculteurs font des barrages, des retenues d'eau, et c'est d'autant plus important avec les changements climatiques, puisqu'il pleut souvent au printemps et pas du tout en été. Donc il y a des projets sérieux menés avec le ministère de l'Agriculture de faire des retenues d'eau un peu partout, et il y a des gens qui sont contre. Il y a des gens qui s'opposent à ces retenues. Alors, le seul argument qui est valable, c'est qu'ils veulent que l'eau soit partagée par tout le monde. Bon, ça doit être faisable. Mais c'est dire qu'il ne faut pas retenir l'eau, ce n'est pas bien. Et ils ont saccagé une retenue d'eau.
Mais pourquoi ce n'est pas bien ? Qu'est-ce qu'il y a de pas bien ?
Parce que ça empêche l'eau naturellement d'aller dans les nappes phréatiques. Or, le ministère de l'Agriculture a mesuré, les nappes phréatiques ne baissent pas. Et c'est vraiment idiot. Ouais. C'est vraiment complètement idiot. Et c'est comme à Sivens. Souvenez-vous, Sivens, c'était ça. C'était une retenue d'eau pour des agriculteurs. Et il y a eu une ZAD, et il y a eu un mort, et on a arrêté le projet. Enfin, c'est impressionnant, je trouve, de bêtises d'empêcher ces retenues d'eau.
Ouais, mais c'est pour ça que, pour revenir à Anne Hidalgo, c'est quand même un petit peu démagogique aussi comment dire, c'est très bien qu'elle y soit allée en train, mais on voit bien que quand même très souvent, il y a des contradictions entre des enjeux écologiques et des enjeux sociétaux, humains, économiques. Enfin là, les agriculteurs, c'est pas que économique, c'est humain. C'est quand même des agriculteurs, c'est des vies entières qui sont menacées par ces choix écologiques. Donc peut-être pour revenir sur Hidalgo, ce qu'il aurait fallu, c'est que la COP26 exige de tous les Européens qui viennent en train.
Voilà. Mais à ce moment-là, il ne faut pas le faire à Glasgow, parce que c'est
en train à Glasgow, c'est difficile.
C'est sûr que Biden ne pouvait pas venir en train.
Comment elle a fait, Anne Hidalgo?
Non, mais est-ce qu'on ne pouvait pas faire une grosse partie?
Elle a dû prendre le TGV jusqu'à Londres, et ensuite,
jusqu'à Londres, et puis après, oui, c'est vrai.
Je suis désolée, un congrès à distance, avec peut-être simplement les chefs d'État qui se déplaceraient éventuellement pour parler entre eux, mais la vidéo, on a toutes les techniques possibles. Là, c'est une aberration.
Il en est sorti quoi, François Monboise, de cette COP?
C'est pas fini.
Ouais. Mais pour c'est l'instant,
fini, ça a commencé.
Mais ça fait 10 jours.
Anne Hidalgo, elle est allée juste pour la photo. Hein.
Ouais.
Elle y allait, elle s'est fait prendre en photo.
Elle est repartie.
Hein.
Elle devait aller à la Brive, elle ne pouvait pas tout faire.
Non, mais c'est l'utilité de ces COP tous les ans.
C'est ça, c'est ça.
Effectivement, Sophie a raison, on pourrait faire des réunions téléphoniques. Ça ne sert à rien de faire toutes ces COP régulièrement. Ouais. Surtout quand les gros pays n'y sont pas, enfin les plus gros pollueurs n'y sont pas.
Oui. Je voulais avoir votre avis sur la décision de Thomas Soto de quitter l'émission politique Élysée 22 qui est diffusée sur France 2, puisqu'on a appris qu'il était...
Il sort
avec la conseillère en communication du Premier ministre. Il ne présentera plus l'émission. Il y a débat, Élysée 22.
Moi, je trouve ça pas normal.
Pourquoi? Donc, il y a eu Béatrice Schoenberg, il y a eu Audrey Pulvar.
Des femmes avec des hommes de pouvoir à un niveau incroyable. Je veux dire, c'est complètement autre chose. Là, on a Thomas Soto qui aurait fait preuve, évidemment, d'une impartialité immense, parce qu'on fait attention. Ensuite, c'est la DIRCOM du Premier ministre. Je veux dire, là, excusez-moi.
C'est un poste important.
Non, mais c'est important, certes. Je ne veux pas minimiser son poste. Mais
vous savez bien que la DIRCOM, elle côtoie plus le Premier ministre que beaucoup de ses conseillers.
Elle
n'est
pas au lit de lui susurrer, voilà ce que tu vas dire. Je veux dire, il ne faut pas exagérer. Je trouve qu'en plus, on a dû lui imposer, parce que je ne vois pas... voilà. Et je pense que c'est... à ce niveau-là, inutile. Tous les cas ne se ressemblent pas. Ouais. Et je pense que c'est parfaitement inutile.
C'est alors, toujours avec le même parti aussi. C'est toujours... on n'en voit pas qui vivrait avec la DIRCOM de Marine Le Pen ou de Zemmour. Hein. Parce que tous les cas que vous citez, c'est toujours...
Bah, Zemmour vit avec sa DIRCOM, non ? C'est pas ce que j'ai compris.
Oui, c'est vrai. Ouais, Zemmour, il est avec sa DIRCOM. Oui, mais il est avec la sienne.
Il est encore journaliste.
Il est avec la sienne. Mais c'est vrai que cet épisode-là, quand j'ai vu cette information que j'ignorais, je me suis dit que ça n'allait pas arranger la défiance vis-à-vis des journalistes. D'ailleurs, une auditrice nous dit impartiaux les journalistes. Non, point d'interrogation.
Est-ce qu'on avait besoin de le dire, un truc pareil?
En Angleterre et aux États-Unis, c'est impossible. C'est impossible, même juridiquement.
Mais c'est pas pour ça que ça va mieux dans leur pays.
Non, je suis désolé. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Thomas Soto, que je trouvais un très très bon journaliste, qui a une certaine
compassion.
Non, mais parce qu'il surtout ce qui l'a le plus embêté, c'est qu'on étale un peu sa vie privée sur la place publique. Voilà. Et je trouve que c'est un journaliste.
Il a qu'à rester fidèle. Pardon. Voilà. Est-ce que je trompe mon mari, moi?
Oui, mais ceci dit, dans les pays anglo-saxons, ça n'est pas possible. Déontologiquement, ils n'ont pas le droit.
Ils n'ont pas le droit, sauf que la nature étant ce qu'elle est.
Ils ont des obligations beaucoup plus importantes que les journalistes français.
François Monbois,
c'est pour ça que c'est mieux.
Est-ce qu'ils sont obligés de faire ça à cause de Léa Salamé?
Service public.
Je pense. Pardon. Ils sont peut-être obligés de faire ça à cause de Léa Salamé.
Oui, mais Léa Salamé elle-même, oui, c'est ça. Était avec Raphaël Glucksmann et elle avait arrêté de présenter.
Oui, mais présenter, c'était autre chose.
Pardon,
c'est un poste important, d'accord. C'est simplement la DIRCOM du Premier ministre. Et je pense qu'il a supprimé uniquement l'animation qui est très importante d'un débat, effectivement. Mais je pense que. Sachant ça, il aurait été tellement impartial. Je veux dire, on s'attache à des choses qui n'ont pas d'importance. En revanche, j'insiste encore, la façon dont le service public exclut certains participants, la façon dont il se comporte sans aucune impartialité, me paraît beaucoup plus grave.
Mmh. Bon, alors, donc voilà, chapitre clos. Passons à notre premier sujet, donc un policier ce matin. Peut-être avant, le policier, qui a été attaqué ce matin à l'arme blanche devant le commissariat de Cannes. C'est un homme qui indiquait agir au nom du prophète. Il a été atteint par des tirs des policiers qui étaient devant ce commissariat. Le policier n'a pas été blessé. Il avait son gilet pare-balles. Gérald Darmanin s'est rendu sur place. La piste terroriste est envisagé. Mais je me dis que si Gérald Darmanin veut vraiment se déplacer à chaque fois qu'il se passe... Parce que il y a le commis... Alors, c'est pas au même niveau, on l'évoquait ce matin avec Juliette, ma collaboratrice. Effectivement, on peut pas mettre sur le même plan ce qui se passe à Cannes, à Argenteuil ou avec les Dalton.
C'est quand même une
défiance. On s'attaque à des policiers, Jeannie.
Leroy. Tout ça vient confirmer sa plaide pour la cause Zemmour. Confirmer
c'est
son
pour
constat.
Ça qu'il y va, peut-être, d'ailleurs.
Qu'ils vont faire ? Alors, à un moment donné, parce que comme ils s'attaquent toujours aux conséquences et pas aux causes, ils vont interdire la vente des couteaux, faire une saisie de tous les couteaux en France, on mangera avec des silex.
Si le criminel ou l'auteur de ces faits n'est pas requalifié en malapsie psychiatrique, qui a des circonstances atténuantes de cet ordre-là, c'est un attentat terroriste, point barre. Ouais. C'est-à-dire de commettre, que ce soit sur un policier, sur un curé, sur un commerçant, sur une femme, sur un homme, quel qu'il soit, une tentative de meurtre en criant à la Akbar ou en les paroles du prophète, pour moi, c'est un attentat terroriste. Et en fait, c'est pour cela, effectivement, que les Français... vivent dans la crainte et effectivement, comme vous le disiez, ce genre de faits divers, de faits politiques, font le jeu d'un Éric Zemmour.
Alors,
et c'est pour
cela
qu'il est si populaire.
Alors, est-ce que François peut intervenir? Oui.
Malheureusement,
il est à distance,
j'ai envie
donc c'est
dire.
Plus compliqué. François Monboise.
Juste deux choses. Moi, je pense que si Darmanin va là-bas, c'est pour manifester sa solidarité et là, sa compassion, pour le coup, avec le personnel. Donc, je pense que c'est bien.
Oui, mais pourquoi il ne va pas à Argenteuil? Pourquoi
c'était il ne va pas à Argenteuil?
Il n'est pas là pour faire de la compassion, il est là pour éviter que ce genre de truc arrive.
Oui, on
s'en fout de
sa
compassion. C'est important de se montrer.
Par contre, et c'est lié au point précédent, moi, ce qui m'a choqué, c'est hier soir de voir les avocats de Salah Abdeslam venir s'expliquer pour la première fois pendant un quart d'heure sur le service public à 8 heures.
Oui, bah, je n'ai pas vu ça.
Bah si, ils étaient sur la 5, on nous a dit avec grand tambour et trompette que pour la première fois, ils s'exprimaient.
Mais monsieur,
alors que le procès est en cours.
Un tout petit mot quand même, vous avez dit fort justement qu'il ne fallait pas à chaque fois dire que c'était psychiatrique. D'un autre côté, ce n'est pas une excuse, mais c'est quand même très souvent des fous. Et je veux dire qu'ils ont saisi
non, non,
ça.
Non, si, c'est pas si. Vrai,
non, mais
non,
ça,
non,
je ne diminue pas une seconde les risques qu'il y a, ce que nous vivons, etc. Mais la psychiatrie, ces types-là, on ne peut même pas les mettre en prison.
Bien sûr qu'on peut les mettre en prison. C'est très intéressant ce que vous dites, Sophie. Mais moi, je plaide, j'ai déjà écrit à plusieurs reprises dans des éditos. Si vous prenez, par exemple, l'affaire de la triste femme de confession juive qui n'a pas eu qui a été
Sarah Limi
qui a été assassinée sauvagement par un criminel qui n'a pas eu de procès parce qu'il a été considéré comme un malade psychiatrique alors même qu'il avait exprimé des paroles religieuses. On en a beaucoup parlé avec certains de ses avocats. Moi, j'ai écrit des éditos là-dessus sur un point très précis. C'est que dans la folie religieuse, qu'elle soit musulmane ou autre, mais là, en l'occurrence, elle est musulmane, dans la montée en puissance de quelqu'un qui va passer à l'acte, il y a, dans cette ivresse religieuse, il y a une folie psychiatrique qui s'insinue forcément. C'est comme les derviches tourneurs qui ont besoin de monter en puissance pour aller vers l'excellence. Et ben chez eux, la dimension psychiatrique est consubstantielle de la folie religieuse.
Qu'est-ce qu'on fait ?
Et donc on ne peut pas les séparer.
Et c'est ce qu'on a fait
avec l'assassin de Sarah Limi. On a considéré que sa folie, le fait d'avoir fumé des joints, c'était ça sa folie, était différente de sa folie religieuse. Et ça, c'est scandaleux, c'est inadmissible, c'est méconnaître ce qu'est le passage à l'acte religieux d'un monsieur comme Akane. Donc, si ça se trouve, le criminel ou le tentative de crime, la personne qui a commis cette tentative de crime à Akane, est peut-être malade psychiatrique. Mais je répète, dans la montée en puissance de passer à l'acte, il y a une dimension psychiatrique.
Ce ne sont pas des malades psychiatriques.
Non.
Ah bon, des gars qui vont flinguer des types parce qu'ils font de la musique.
C'est autre chose, les foules, il y a une contagion des foules, etc. Ben à ce moment-là, tous les nazis étaient des malades psychiatriques.
Ah oui,
bien d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est que.
Ils ont été jugés à Nuremberg.
Oui,
on s'éloigne un petit peu de notre sujet. On va y revenir dans un tout petit instant et j'aurais qu'on parle quand même de cette défiance vis-à-vis de l'État avec les Dalton qui demandent à négocier avec l'État la libération. Non mais ils se croient où et ce qui s'est passé à Argenteuil hier, c'est suite à un tir de flashball sur un délinquant. Donc on va y revenir, on marque une pause, à tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Débat, et nous revenons sur ce qui s'est passé au commissariat d'Argenteuil hier où un jeune a été blessé à coup de par un flashball d'un policier. Réaction immédiate, le commissariat a été attaqué au mortier. Et puis les Dalton, donc ces quatre individus qui terrorisent la ville de Lyon en faisant des rodéos sauvages, on en avait parlé la semaine dernière puisque l'un d'entre eux, interpellé, a été condamné à 8 mois de prison avec sursis et une amende de 100 €. Bien ce week-end, ils sont allés au pied de la prison de Lyon-Corbas. L'un d'entre eux a escaladé le grillage pour apparemment délivrer un colis pour l'un d'entre eux qui est emprisonné. Et ils ont même demandé ils sont prêts à arrêter si Angèle accepte, la chanteuse, de chanter avec eux, et si l'État accepte de libérer l'un des leurs qui est en prison.
Il
faut en rire.
En nous annonçant...
Ah non. Vous trouvez ça drôle, vous ?
Mais Valérie, en nous annonçant le sujet avec Juliette, que vous saluiez tout à l'heure à mon tour de le faire, vous avez dit ça fait un peu Orange Mécanique.
C'est vrai.
Mais je trouve que c'est vrai. Je trouve que c'est vrai. C'est-à-dire, il y a un côté, mais franchement, une sorte de violence à la fois insolente, gratuite, quelque chose qui est un peu hors des réalités. Et c'est vrai que de voir les autorités complètement démunies face à cela,
ils ont aussi interrompu. Ils sont pas démunies, elles ont la trouille.
Elles
ont la trouille. On approche des présidentielles. Imaginez que les banlieues soient à feu et sang au mois d'avril. Mais Macron, il peut s'en aller, quoi. C'est fini pour lui. Donc je pense qu'ils ont la trouille.
Non, mais comme vous le disiez pendant la pub, ils sont quatre, a priori, les Daltoniens.
Ils n'arrivent pas à attraper quatre personnes. L'autre, c'est pas Lucky Luke, Darmanin, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai qu'ils multiplient les actions pour faire parler d'eux. La preuve, c'est qu'on François Monboise, vous réagissiez sur ce sujet. Moi, j'ai trouvé que cette escalade du mur de la prison était quand même un affront fait à l'État et qu'on arrive... Mais vous plaisantez
ou quoi ?
Non, mais
c'est pas que je plaisante pas. C'est tellement anecdotique que ça finit par être drôle d'escalader le mur de la prison.
Il n'y a pas d'anecdote.
Attendez. Je finis. Je dis qu'on devrait en rire. Par contre...
En rire ?
Oui, non, parce que c'est ridicule d'aller porter un paquet en escaladeur le mur de la prison. Moi, ça me fait rire. C'est du digne de Lucky Luke, je suis d'accord.
Mais c'est révélateur de quelque chose.
Oui, mais ce qui est absolument le seul sujet, c'est comment est-ce que immédiatement la répression n'est pas... très sévère.
Parce qu'ils ont peur.
Ben voilà. Ben c'est ça le sujet. C'est pas d'escalader la prison.
François Monboise. Alors, on a perdu François.
Oui, mais pourquoi les policiers ont peur ? Parce qu'en fait, ils sont pas...
Non, c'est pas les policiers qui ont peur.
Vous avez qu'à regarder le
c'est
film
le pouvoir qui a peur. Parce que si jamais il y en a un qui s'il y a un pépin ou je ne sais quoi, les banlieues, c'est les
émeutes. Ouais,
c'est
passé à Argenteuil, quoi. Exemple,
voilà, et Zemmour se prend plus 5, etc.
C'est-à-dire que c'est ce que nous disait un policier la semaine dernière, c'est-à-dire que les délinquants prennent les policiers pour une bande rivale. Et là, ce qui s'est passé à Argenteuil, c'est ça. C'est vous nous avez tapé, on vous tape.
C'est vrai.
Eh bien oui, c'est pas risible.
Il y a autre chose sur les Dalton qu'il faut savoir. D'abord, deux points importants. Enfin, le premier est anecdotique, là. C'est qu'ils ont réussi à interrompre le match OL-Sparta de
aussi,
Prague.
C'est vrai.
Voilà. Mais ce que j'ai appris, ce qui est quand même incroyable, c'est que c'est en fait un groupe de rap qui prépare un album.
Donc c'est une opération que de
fait,
com'.
Et ça leur fait une publicité d'enfer et ils sont certains d'en vendre des dizaines, des centaines de milliers.
Donc, si c'est eux,
franchement, c'est quand même c'est absolument hallucinant. C'est comme encore une fois Cyril Hanouna qui reçoit sur son plateau le gars qui est allé dans une ambulance pour foutre pour saccager une ambulance, etc. Oui. Son seul fait d'armes, c'est d'avoir commis un délit véritablement et des incivilités absolument scandaleuses et inadmissibles. Et résultat, il se retrouve à la une d'un média.
Donc
effectivement, si les Dalton se font leur publicité pour un futur album, franchement, c'est scandaleux, quoi.
Ouais. Les gens sont un petit peu choqués par vos propos, Stéphane. Vous dites, Sophie, on a déjà évité des drames avec ces crétins en moto. Alors, est-ce que vous allez rire quand il y aura un mort ? C'est extrêmement dangereux,
non,
ces
rodéos. Je disais que la façon... ce qu'on décrit avec des mômes ou pas, d'ailleurs, à moto, qui font des rodéos, l'escalade...
C'est pas des mômes, ce sont... Enfin,
non,
ce ne sont pas
si
des
vous
mômes.
Voulez, si vous voulez, non, mais je retire le mot.
Arrêtez de dire mômes.
Mais enfin, c'est pas des vieux non plus.
C'est pas des gamins. Non, mais mômes, ça veut dire quelque chose.
Non, d'accord. Donc, il y a beaucoup de... Il y a malheureusement beaucoup de jeunes dans ces banlieues qui réagissent, et c'est très grave. Je dis que... Ce qui est terrible, c'est la disproportion qu'il peut y avoir. Et vous parlez effectivement d'un album de rap qui doit sortir. Je pense à la répression immédiate. Et je pense qu'on les met trop en exergue. Ça finit par séduire certains qu'on escalade le mur d'une prison. Ils finissent en héros avec des albums de rap. C'est ça qui me paraît risible d'un certain côté. En revanche, évidemment que c'est dramatique pour notre sécurité, mais je trouve que la réponse devrait être immédiate.
Ça risque pas.
On
approche des présidentielles. Les mecs, ils peuvent aller faire du motocross dans le bureau de Macron. Je dis.
Ce que dit Sophie est très intéressant. Mais malheureusement, ça n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que, et c'est une des grandes faiblesses du droit français, c'est que quand quelqu'un est pris en flagrant délit d'un délit de cet ordre-là, il peut être poursuivi en comparution immédiate, pour être jugé tout de suite. Sauf que s'il refuse la comparution immédiate, c'est-à-dire la personne poursuivie refuse la comparution immédiate, il n'y a pas de comparution immédiate et le procès est renvoyé de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aux Pays-Bas, par exemple, ils ont réussi à faire baisser fortement la délinquance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont multiplié les petites peines de prison ferme,
immédiatement
décidées, sans possibilité pour le prévenu de refuser. Et donc, ils ont fait plein de petites peines. Et ça a été extrêmement dissuasif. Fonction que la justice française ne remplit plus.
Michel, vous avez raison, c'est pour ça que ça, on pourrait le faire tout de suite.
Ça ne relève pas de la police, ça relève de la justice.
J'ai compris.
Et la justice ne fait pas son boulot.
Pourquoi est-ce que le garde des Sceaux, et justement, à la limite, parce qu'on est en campagne électorale, pourquoi est-ce que le garde des Sceaux ne prend pas immédiatement ce type de mesure qui serait acceptée par la population française? Moi, je pense
Dupond-Moretti, c'est l'idole des délinquants. On a retrouvé même des sachets de drogue, de cocaïne, je crois, avec il y avait l'effigie de Dupond-Moretti sur les sachets.
Mais c'est, après, la justice est indépendante, les magistrats sont indépendants, mais c'est vrai qu'ils pourraient, Dupond-Moretti, envoyer une note au parquet.
Il y aurait pas des
Allez,
mots,
on marque une pause. On a retrouvé François Monboise et on vous entendra sur le sujet. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi. Débat.
On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi avec vous. François Monboise, on avait perdu la connexion avec vous. Donc sur ces défis, cette défiance vis-à-vis de l'autorité, des forces de l'ordre, qu'est-ce que ça vous évoque ?
Je crois que c'est vrai. Enfin, la défiance. Revenons à l'exemple que j'avais donné précédemment sur l'impunité vis-à-vis de la justice, des faucheurs volontaires, des militants de Greenpeace. Ce week-end, les militants de Greenpeace qui avaient peint en vert un avion sur un tarmac, la procédure a été annulée pour vice de forme. Et donc, aussitôt, les avocats de Greenpeace ont dit ça prouve bien que finalement, on avait raison. Les faucheurs volontaires sont systématiquement relâchés. Ouais. Et donc, ils continuent. Donc là, il y a des gens et les gens qui ont saccagé les retenues d'eau dont je parlais ce week-end, je crois qu'il n'y en a pas eu un arrêté. Ouais. Donc effectivement, là, il y a un problème d'autorité de la police que je mets…
D'une manière générale, effectivement, on parle de certains délinquants, mais c'est à plein de niveaux, c'est à plein de niveaux de l'État.
Ouais. C'est sur le banc à moto, pour revenir sur Brando dont je parlais pour… Faut quand même, c'est quand même vieux comme le monde, ces histoires-là. Ouais. Souvenez-vous de l'équipée sauvage. Les vieux films américains avec James Dean, vous avez des bandes en moto qui sèment la terreur. Donc, je pense qu'il faut que la police, protège les gens. Je suis d'accord. Et là où les Dalton sont malins, c'est qu'ils essaient de jouer la complicité des gens en faisant des choses plutôt sympathiques. Mais comme on est dans un pays où les gens préfèrent être les voleurs que les gendarmes dans les cours d'école, ça marche. Et les médias jouent avec ça, je suis d'accord. Je crois que c'est Sophie qui l'a dit. Ouais. Les médias, en invitant systématiquement les frères du délinquant ou la petite copine du meurtrier, profitent de ça. Ouais. Parce que ça fait de l'audience.
Donc c'est pas
facile,
Non, c'est sujet compliqué et une ambiance, effectivement, qui fait qu'on comprend aussi le succès d'Éric Zemmour qui aborde ces sujets sans aucun tabou.
On arrive quand même à sanctionner des milliers d'automobilistes parce qu'ils roulent à 53 au lieu de 50.
C'est 30 maintenant à Paris.
Comment ?
À Paris, c'est 30.
Ou à 33.
Pour votre idole, Anne Hidalgo.
Et là, il y a 4 gugus qui... auquel il n'arrive pas à...
C'est incompréhensible.
C'est surréaliste. Quoi.
Ouais. Moi, je voulais vous demander, Michel, en demandant à François Monboise, vous dites que les avocats de Salah Abdeslam sont passés à la télévision hier, c'est ça ?
Sur la 5, oui, vers 8h du soir.
Moi, honnêtement, chacun a une liberté d'expression, mais moi, ça me choque, ça me choque profondément.
Le procès est en cours.
Non, mais c'est pas tellement ça. C'est que d'un point de vue purement moral, ce très long procès qui va durer 9 mois.
Écoute les yeux de la tête.
Il y a des moments pour chacun des parties du procès. Là, on vient à peine d'entendre les victimes. Ça a été horrible. Mmh. Ça a été des tragédies, voilà. Et les avocats des poursuivis, des criminels poursuivis ou présumés criminels. Ouais. Le temps va venir. Il va venir dans 3-4 mois. Et je pense que ça va être très dur à vivre, très très dur, d'entendre les avocats, d'une part les prévenus eux-mêmes et les avocats s'exprimer. Je pense que les Français vont en entendre des vertes et des pas mûres. Et en plus, on sera très très proche de l'élection présidentielle. Mmh. Et moi, j'ai depuis le début une grande crainte avec ce procès. Bien sûr qu'il y a un besoin de justice, et bien sûr que les victimes ont besoin d'une parole publique pour essayer de... Peut-on faire le deuil de ce qui s'est passé ? C'est très difficile. Mais je pense qu'on va vivre des heures et des journées et des semaines très très dures quand on va entendre les prévenus et leurs avocats s'exprimer. Mais d'apprendre que les avocats commencent déjà à s'exprimer... Franchement, moi, ça me fait mal au cœur et je trouve cela...
C'était l'émission de Karim Rissouli, c'est ça ?
Oui.
Eh ben, il a fait son record d'audience, meilleure performance d'audience de la saison, 900 000 téléspectateurs.
Pour
cette émission. Il disait quoi, les avocats ?
J'ai zappé.
J'ai pas eu envie de les écouter.
Non, mais il y a un moment où il y a quand même une éthique, une déontologie de la presse qui part. Alors, je sais bien qu'il y a les nouveaux, les médias sociaux, etc. Mais il y a un moment où c'est très compliqué d'avoir des entreprises privées qui doivent faire de l'audience pour gagner de l'argent, parce que c'est ça. Et je suis une chef d'entreprise, c'est de ce dont je parle. Mais il y a un moment, il va falloir quand même réfléchir. c'est juste pas possible.
Désolé, c'est pas une entreprise.
Jusqu'où va-t-on aller?
L'avocate, effectivement, qui s'exprime, ça a été annoncé. Il y a une évolution dans son comportement. Il est là, il répond, c'est ce qu'elle a dit. On ne doit pas exclure quelqu'un à partir du moment où les faits qui lui sont reprochés paraissent trop terribles. Voilà, c'est quelques extraits de ce qui avait pu être dit hier. Sans transition, comme on dit à la télé. dernier baromètre IFOP fiducial pour LCI et Le Figaro. Éric Zemmour devance Marine Le Pen dans un scénario où Xavier Bertrand serait choisi par les Républicains. Le polémiste n'a toujours pas officialisé sa candidature, mais il récolterait 17% des intentions de vote contre 16% pour Marine Le Pen. La majorité donc des... Ça fait quand même ce qu'il faut aussi retenir de ce sondage, c'est qu'il y a quand même 35% des gens qui votent pour une droite plutôt extrême.
Alors, excusez-moi Valérie, mais 1% pour un sondage, quand on sait ce qui s'est passé en France, aux États-Unis,
c'est pas signifiant. Je n'ai pas commenté ce 17%, je commente le 17+16, qui fait 35% de Français qui disent vouloir voter plutôt à l'extrême droite, et que la gauche est assez dans les choux.
Enfin, moi, j'ai l'impression qu'avec ces sondages pour le premier tour, on nous promène un peu parce que de toute façon, on sait très bien que Macron sera soit face à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour, et on sait très bien que Macron va gagner. Ouais. Donc,
on sait.
Moi, je ne serais pas aussi sûr que vous.
Moi non plus, on ne sait jamais.
Et ni sur le premier, ni sur le deuxième. Pour une raison très simple.
Attendez, laissez-le terminer. Pardon. Laissez Jenny terminer.
À moins d'événements de motocross et d'attaque au couteau, ou une motocross à l'Élysée. Ouais. Mais...
Alors, moi, je pense vraiment qu'on est à un tournant de la campagne électorale, qu'effectivement, Zemmour est en train clairement et définitivement prendre la place qu'occupait Marine Le Pen. Et une place beaucoup plus forte qu'elle ne l'avait. Et je pense que il y a deux choses. C'est d'ailleurs le titre de mon édito de ce matin. Pourquoi Zemmour a déjà gagné l'élection présidentielle ? C'est parce que, en fait, sur le débat d'idées, il a déjà gagné. Et quand vous voyez Arnaud Montebourg
et tous les candidats LR, il
a gagné. Donc s'il arrive, ce qui n'est pas gagné, à maintenir la question sécurité, identité, immigration comme la question de l'élection présidentielle, Zemmour peut aller très très loin. Et je pense, moi, que Zemmour, c'est le Macron de 2016. C'est-à-dire qu'en 2016, il a fait irruption sur la scène publique politique et il a gagné l'élection présidentielle. Donc moi, je pense que Zemmour, c'est pas un épiphénomène. C'est pas un feu de paille, c'est pas qu'un phénomène médiatique, phénomène très profond et que ça, il peut aller très loin. Et donc du coup, effectivement, pour répondre à la question du sondage, Zemmour dépasse Marine Le Pen, mais je pense effectivement que la question que va devoir se poser Marine Le Pen à l'approche de l'élection présidentielle, c'est qu'est-ce qu'elle doit faire ? Oui. Est-ce qu'elle doit se maintenir ou appeler à voter Zemmour si celui-ci creuse l'écart ? Parce qu'à mon avis, il va creuser l'écart.
Moi j'écoute les débats politiques, les commentateurs, personne ne sait et sont assez partagés sur l'issue de Bien sûr, que va donner la candidature.
J'ai le droit d'exprimer mes intuitions.
En revanche, ce qui est intéressant, il y a un suicide en direct ce soir qui va être en 4 épisodes.
Ah oui. On va en parler, effectivement. Des LR.
Où LR va débattre entre eux. Donc, où ils ne marquent aucune différence, on se demande ce qu'on fait là. Ou alors, ils se lancent des.
Ils s'entretuent.
Ils balancent des vacheries les uns contre les autres et c'est un drame. Donc, la droite suicidaire dans cette histoire est très responsable de ce qui se passe.
Oui. Alors, François Monbois sur...
Je suis d'accord avec Michel Taube que Zemmour a réussi à centrer le débat sur lui. Ben oui, mais pour Marine Le Pen, c'est un sacré problème, parce que d'habitude, c'était elle qui faisait la polémique, qui était un peu au centre des débats, et là, c'est Zemmour. Donc à droite, effectivement, ils font un peu surenchère de propositions dures, ce qui est paradoxal, puisque Valérie Pécresse était partie des Républicains en trouvant que la ligne de Wauquiez était trop dure. Xavier Bertrand un peu aussi. Et maintenant, ils sont
tous en train de se rallier. Quand on voit effectivement Arnaud Montebourg, on va peut-être en reparler, qui reprend visiblement une proposition d'Éric Zemmour. C'est en tout cas ce qu'Éric Zemmour a dit.
Zemmour dit un truc, c'est comme Le Pen. Non, je veux dire, dès qu'ils disent quelque chose et qu'on reprend,
mais je ne parle pas du fond. Je ne parle pas du fond. Je parle du fait que ce qu'évoque Michel Taube et François Monbois, c'est qu'Éric Zemmour a phagocyté le débat. Donc quand on voit à Montebourg, qui était quand même plutôt à gauche, aujourd'hui dire il faut que les immigrés ne puissent pas envoyer l'argent au pays, je ne parle pas du fond de ce qu'il dit, je dis qu'il reprend une mesure.
Pourquoi il a phagocyté le débat? C'est ça, pourquoi il a réussi à le phagocyter? C'est parce que je pense qu'on sous-estime, Emmanuel Macron le premier à sous-estimer, La gravité de ce qui s'est passé en France depuis grosso modo 2012, avec la montée de l'islam radical, les attentats terroristes, vous vous rendez compte tout ce qu'on a eu, des centaines de ces faits d'atteinte aux policiers, de personnes qui ont commis des
propositions.
Oui, mais la réalité, c'est que les Français en ont marre de tout ça. Et donc, en fait, c'est la rencontre entre un homme et une réalité qui est dans le cœur des Français. Les Français en ont marre de tous ces problèmes.
L'enjeu, à la fin, au deuxième tour, l'enjeu, il est d'ailleurs, à mon avis, plus psychologique que politique. C'est-à-dire qu'il y a une lourdeur d'une partie de l'opinion qui est habitué à une espèce de ronron entre centre-gauche, centre-droit, centre-gauche, centre-droit.
Non, des élites,
et
pas de...
La nature humaine a horreur de l'inconnu. Et je pense qu'il y a toute Même à Macron, il restait dans le... Justement, au contraire, il disait ni droite ni gauche, donc ni chaud ni froid. Donc formidable, ça maintient le ronron, quoi. Et je pense qu'il y a une part de l'opinion qui a une peur panique de l'inconnu. Quel que soit cet inconnu.
C'était pas l'inconnu, Macron, on savait d'où il venait, où il était. Éric Zemmour, c'est l'inconnu. Marine Le Pen,
Macron a fait une très belle campagne dans son genre, je suis désolée, on peut dire ce qu'on veut. Sûr.
Mais on ne vous demande pas de commenter la campagne d'Emmanuel Macron.
Non, mais je dis que ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui avec Zemmour.
Non, mais c'est exactement ce que dit Jany. C'est ce que dit Jany, absolument. François, vous pensez que les Français peuvent... Parce qu'il y a des pays qui l'ont fait, quand on pense aux États-Unis où tout le monde disait « Trump ne pourra pas être élu ». Sur l'Italie Beppe
Boris
Grillo.
Johnson, c'est un peu ça aussi. Enfin, je veux dire, le Brexit.
Est-ce qu'on peut laisser François? Pardon,
François.
Oui,
François. Deux fois de suite, ça fait beaucoup quand même.
Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas si ça ira jusqu'à une victoire au deuxième tour. J'en sais rien du tout. Mais il prend les codes un peu de Trump, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il son slogan, c'est comme « Make America Great Again ». La France n'a pas dit son dernier mot, c'est exactement la même chose. Et puis, créer l'événement sur des bêtises tous les jours qui sont reprises, comme le salon militaire, etc., qui fait que tout le monde, il attire toutes les caméras.
Oui, absolument.
C'est quand même important.
Allez,
tout le monde le suit.
On va marquer une pause. On peut dire quand même quelques mots de ce qui va se passer ce soir. Premier débat sur LCI entre les LR. C'est à suivre dans un instant. Et puis la proposition d'Arnaud Montebourg, bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, débat.
Pardon, il y a de la bonne humeur dans le studio. Non, je parlais du livre de Solène de Royer sur le dernier amour de Mitterrand. Mitterrand qui avait 70 ans et qui a rencontré une étudiante de 20 ans avec qui il a eu une relation pendant 8 ans. Donc on parlait des histoires de tromperie et de coucherie. Président de la République qu'il était, il avait le temps d'avoir cette relation avec cette jeune femme. Allez, parlons quand même. Vous voyez comme quoi, hein, le niveau. Donc Arnaud Montebourg, quand même, on verra. Parce que pendant la pub, pour tout vous dire, qu'est-ce qu'on va dire sur les Républicains qui vont débattre un petit peu,
Sophie,
un peu résumé.
C'est trop tard.
Arnaud Montebourg propose donc de taper au portefeuille et de bloquer les transferts d'argent vers les pays qui ne rapatrient pas leurs ressortissants. C'est vrai que c'est énormément d'argent. 11 milliards de transferts d'argent qui passent par Western Union sur l'ensemble des pays d'origine. Donc il demande à ce qu'on bloque ces transferts qui sont une manne pour ces pays, plus même que certaines aides. Vous
en pensez quoi ? Il sera lié à Zemmour et puis n'en parlons plus. Quoi. Voilà.
Oui, mais sur le fond, c'est pas faisable, François, comment on fait ?
Ben on ne fait pas, et je ne vois pas comment il peut faire, parce que vous passez par un compte à Londres ou à Genève ou je ne sais où, donc vous allez interdire les transferts à Londres, enfin ce n'est pas possible.
C'est techniquement pas possible.
Alors, moi j'ai un point de vue. Je trouve, c'est vraiment très grave. Parce que si on fait ça, très concrètement, en fait, il y a un mois, le gouvernement français a décidé de réduire de moitié l'attribution des visas consulaires aux ressortissants du Maghreb. D'accord ? Ce faisant, moi j'ai fait un édito pour dire, vous allez pénaliser des innocents, c'est-à-dire des femmes et des hommes qui font des allers-retours légalement, des chefs d'entreprise, des étudiants, des membres de famille qui font des allers-retours, qui ne vont plus pouvoir le faire. Et là, vous avez Arnaud Montebourg qui dit on va pénaliser tous les pauvres gens qui triment tous les jours pour avoir un salaire à Paris.
Il ne dit pas ça. Il dit vous avez aujourd'hui 100 000 mesures d'obligation pesant sur des personnes qui doivent quitter le territoire qu'on n'arrive pas à exécuter. Oui. Ces personnes sont là et sont d'ailleurs souvent des délinquants. Donc ça concerne ces personnes-là.
Mais c'est pas eux dont je parle, Valérie.
Oui, mais lui, il parle de cela. Donc on ne parle pas des autres, on parle de cela. On parle des gens qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Pourquoi peuvent-ils envoyer de l'argent dans leur pays ? C'est cela dont on parle. Mais François Monboise,
Je pense que le meilleur moyen de faire pression sur ces pays-là, c'est d'annoncer l'interruption de tous les crédits, subventions et aides financières qui sont accordées à ces trois pays qui sont l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Parce qu'avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui gère des milliards d'euros d'aide au gouvernement, si on interrompt ces aides-là, vous allez voir que très très vite, les États vont accepter de les reprendre. C'est au portefeuille des États qu'il faut frapper et pas des personnes.
Donc c'est purement... Alors, est-ce qu'on doit débattre même du fond de cette mesure ? Parce que visiblement, c'est électoraliste. Des auditeurs qui réagissent et qui connaissent bien, dont Stéphane qui dit on pourra payer par PayPal. Enfin, il y a plein de systèmes, crypto-monnaies, il y a plein de manières de contourner cet envoi. La question, elle n'est pas politique. C'est-à-dire Arnaud Montebourg qui, finalement, ça poursuit notre débat.
Mais ce qui est dramatique,
se retrouve dans le.
Je suis d'accord.
Dans
et ce qui est dramatique pour l'image des politiques, c'est que. Ils proposent des mesures complètement démagogues dont ils savent qu'ils ne peuvent pas les appliquer. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Michel, sur le fait qu'il n'y a pas de comparution immédiate, etc. Et qu'on promet qu'il y aura zéro tolérance pour la délinquance, etc. Moi, je voudrais quelqu'un qui se présente et qui propose concrètement ce qu'on peut faire en 3 mois, juridiquement, ce qui est acceptable et possible. Sinon, ce n'est pas possible. Les jours, on nous balance
demain, on rase gratis.
Oui, c'est comme on arrête les allocations familiales aux mères de délinquants. Oui, comment, quand, par quelle loi.
Il n'y en a pas déjà qui le font ?
Non.
Nulle part ?
Je ne crois pas. Et la pauvre femme qui est toute seule alors qu'elle ne maîtrise pas, elle est seule, voilée avec 3 fils, qu'elle ne maîtrise pas, etc. C'est elle qu'on va priver de... Je veux dire que l'incohérence des propos tenus et la démagogie est insupportable. Moi, je voudrais tout simplement des choses extrêmement simples. Ça, on ne peut pas le faire. Ça, on peut le faire en 3 mois. Et voilà comment on s'y prend. Et je pense qu'on récupère là l'estime des Français.
Et c'est d'ailleurs pourquoi Zemmour fait des fausses promesses, parce que la plupart des promesses qu'il fait sont malheureusement pour la plupart impraticables.
Et je crois qu'il
et comme
le sait
suggérait
même
Valérie
pas.
Tout à l'heure, la question c'est quelles sont les solutions faisables
qui pourraient être mises en place.
Mais bon, il n'en demeure pas moins que Arnaud Montebourg a quand même rompu une digue à gauche qui est celle des enjeux sécuritaires et il était temps qu'un représentant de la gauche le prenne en main. Il fait du Michel Onfray et c'est très bien.
François
Je reviens à Trump, il fait la même chose que Trump. Souvenez-vous, quand Trump a été élu, il a bloqué absolument tous les visas avec un certain nombre de pays. Et puis ça a été le bazar dans les aéroports, un bazar monstre, il est obligé de revenir en arrière, mais il fait des mesures fortes. Non, Montebourg, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que ça affiche la panique en France, avec les gens qui voudront transférer. Il vaut mieux supprimer les visas, mais peut-être carrément, ou le réduire de moitié, parce que là, ça met la pression dans les pays en question. C'est ça qu'il faut faire, il ne faut pas mettre la pression
chez nous, il faut
la mettre là-bas.
Les gouvernements, je parle de l'Algérie par exemple, mais le gouvernement algérien s'en fout des dommages qu'on peut infliger aux habitants d'Algérie. C'est pour ça qu'il faut s'en prendre à l'État algérien.
Non, ils ont une pression énorme de leur jeunesse, non, je ne suis pas d'accord. D'ailleurs, le président algérien est furieux, il veut que Macron arrête. Non, ils ne sont pas contents.
Non, c'est
d'abord, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, ce n'est pas dans le même sac, excusez-moi.
J'ai fait la distinction, j'ai parlé de l'Algérie.
Un mot sur ce débat de ce soir. Vous ne prendrez pas de médicaments pour dormir ce soir, Fanny Leroy.
Je vais regarder le débat des Républicains, une verveine.
Et là, vous êtes sûr de bien dormir.
Mais surtout, il y en a 4. Il y en a 4.
François, vous en attendez quoi? 5 candidats, mais 3 débats.
Je regrette qu'ils aient viré Denis Paire.
Oui, Denis Paire qui était le chef d'entreprise.
Ils
l'ont viré ou c'est lui qui a...
Ils n'ont pas donné l'investiture, mais tout ce qui fuite en ce moment, c'est qu'il y a eu un ordre de verrouiller et de ne pas le laisser passer. Ouais. Et ce n'est pas bien, parce qu'il n'aurait peut-être pas gagné, mais ça aurait fait entendre une voix un peu différente. C'est vraiment l'image d'un parti qui n'est quand même pas en grande forme et qui refuse de s'ouvrir à quelqu'un qui vient avec des idées nouvelles. Je trouve ça dommage.
Je suis d'accord, mais c'était le seul libéral. Tout ça est beaucoup trop tard. Je veux dire, c'est terrible ce retard. Comment peut-on dire qu'on va gouverner un pays quand on n'est pas capable de décider et de faire en temps et heure de choisir son chef? C'est dramatique.
Il
y a un ancien ministre de l'Environnement.
L'an dernier, il y a 5 ans, c'était quand la primaire, les Républicains? C'était à peu près la même période.
Oui, mais il ne faut pas la comparer, parce qu'à l'époque, il y a eu 4 millions de votants. Là, il va y avoir 120 000 votants, dont personne ne peut savoir ce qu'ils vont voter. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas de sondage. Moi, j'ai juste envie d'envoyer tous les candidats, et notamment Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, qui avaient dit qu'ils courraient indépendamment de LR, et qui ont accepté de se remettre dans la gueule du loup. Enfin, je trouve ça complètement incohérent.
Sinon,
j'ai envie de leur envoyer le livre de Philippe
Basseur
qui était ministre de l'Environnement il y a longtemps, il y a 25-30 ans, de Jacques Chirac. La droite la plus bête du monde. C'était le livre.
Alors, la gauche la suit très près d'abord.
C'est un peu
Et ensuite le problème de ça, c'est que c'était insoluble, car si, et je suis d'accord Michel sur ce point, mais s'il ne rentrait pas au bercail, il y avait 2 candidat, et là, la droite, c'était même pas la peine d'y penser. Donc, c'est de la survie.
Janine, vous vouliez dire quoi?
C'est un peu dommage quand on voit qu'il n'y a pas un chef qui surnage de manière naturelle, quoi. De Gaulle, il n'a pas eu besoin de primaire.
C'est vrai qu'il n'y a pas de chef évident et qui sont extrêmement divisés quand même.
Il n'y a aucune personnalité charismatique qui émerge de tout ça.
Regardez leur proposition. C'est fini, la personnalité, le sauveur et la personnalité charismatique.
Sur la 5ème République, on n'a pas prêt d'en finir.
Par exemple, que Valérie Pécresse est tout à fait capable d'être présidente
de la
République.
Oui, mais ça, c'est votre avis. Mais d'autres pensent que Xavier Bertrand l'est tout autant.
Donc, ils ne sont pas forcément charismatiques.
Il faut qu'ils s'y mettent à plusieurs, je pense.
Oui, ils auraient peut-être dû s'y mettre à plusieurs. J'entendais Luc Ferry hier qui disait qu'ils auraient dû, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse, se mettre ensemble. Ils auraient proposé quelque chose.
Ça, c'est déjà fait.
Mais ils n'ont pas voulu le faire.
Allez, c'est fini. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.